Les informations politiques diffusées par la radio ou nos journaux nous parlent souvent de telles pièces majeures sur l'échiquier mondial. Cette expression appartient presque exclusivement au vocabulaire journalistique. Elle est souvent utilisée parce que très expressive. Elle compare les événements mondiaux à une vaste partie d'échecs où chacun essaie de jouer pour gagner. Les joueurs d'échecs savent bien ce que cette expression a de vrai. Le mouvement des pièces sur l'échiquier permet toutes sortes de combinaisons qui exigent un grand calcul, beaucoup de réflexion. Chaque mouvement entraîne des conséquences qui peuvent décider du gain ou de la perte de la partie. Vous vous imaginez que la partie se déroule à votre avantage, que vos pièces sont stratégiquement disposées, et soudain, votre adversaire renverse la situation et vous vous retrouvez échec et mat en quelques coups. C'est ce qui m'est arrivé récemment. Je ne vous dirai pas en combien de coups j'ai perdu la partie, mais j'ai tiré une leçon de la façon dont le maître, car c'en était un, s'était servi de mes propres combinaisons pour démanteler mes plans et atteindre son objectif. La partie qui se joue sur l'échiquier mondial, pour reprendre notre expression, est plus qu'embrouillée. Depuis les origines, elle n'a jamais été très simple. Parfois, une nation semble avoir la partie en main et soudain, c'est le renversement, apogée et déclin. C'est l'histoire de la plupart des civilisations qui se sont succédées. Pourquoi ? Parce que les hommes ont voulu, parce qu'ils veulent jouer leur partie comme s'ils étaient des dieux, pouvant disposer du présent et forger l'avenir à leur guise, sans se soucier des intentions du maître, de celui qui a dit à l'océan « Tu iras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Car il y a une intention supérieure au-dessus des agitations des peuples. Il y a un maître qui, tout en respectant la liberté des hommes à choisir entre le bien et le mal, développe son plan. C'est lui qui change les temps et les circonstances, dit le prophète Daniel, qui renverse et qui établit les rois et qui domine sur le règne des hommes. L'histoire du peuple hébreu est un exemple typique, une preuve de la présence de Dieu, discrète mais efficace, à travers et malgré les plus sombres calculs des hommes. Voici les fils du vieux patriarche Jacob, qui complotent contre leur frère Joseph. Ils sont jaloux de lui, ils le haïssent, ils veulent s'en débarrasser. Ils avisent une caravane de passage et le vendent comme on vend du bétail. Ils font croire à leur père que son fils préféré a été dévoré par une bête sauvage, en lui ramenant un vêtement taché du sang d'une des bêtes du troupeau. Qui aurait pu croire que cette horrible mise en scène, que ce pion poussé sur l'échiquier de leur vie, puisse avoir des conséquences aussi vastes? Nous savons en effet comment la présence de Joseph en Égypte détermina une dizaine d'années plus tard l'arrivée en Égypte de toute sa famille, tout le clan des Jacobites, soit 75 personnes, les enfants d'Israël, qui deviendront, 4 siècles plus tard, ce peuple que Moïse conduira jusqu'à la terre promise. Vous vous souvenez sans doute des paroles de Joseph, lorsqu'il se fit reconnaître par ses frères, épouvanté de le voir vivant. « Soyez sans crainte. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ces considérations font dire à l'apôtre Paul, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensible. » Entre autres exemples, je pense aussi à Esther, cette Israélite qui, par un destin exceptionnel, devint reine de Perse et qui fut appelée à jouer un rôle décisif pour sauver son peuple d'une vague d'antisémitisme qui visait à massacrer tous les Juifs du royaume. Elle seule pouvait influencer le roi. Le sort des Juifs dépendait de son initiative. Elle le savait, d'autant plus que l'un des siens lui avait fait dire « Et c'est là, à mon avis, la grande leçon du livre d'Esther dans la Bible. Qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » La Bible nous fait parcourir des milliers d'années d'histoire humaine et nous fait découvrir un Dieu qui poursuit son dessein. Il forme un peuple, le favorise, le sauve, le châtie, le rétablit, le préserve, car il est porteur du salut. Il contient en germe le sauveur du monde. Dans la partie interviennent les Égyptiens, les Assyriens, les Perses, les Grecs et les Romains, pour n'en citer que quelques-uns. Mais quelle qu'ait pu être la puissance de ces peuples et les grands brassements qu'ils ont opérés dans le monde, Pendant tous ces temps, quelqu'un tenait la partie en main, un maître. Plus tard, lorsque les temps ont été accomplis, dit l'apôtre Paul, lorsque le moment choisi fut arrivé, Dieu a envoyé son Fils. C'était la pièce majeure qui, en intervenant sur l'échiquier mondial, inaugura la dernière phase de la partie. Le peuple de Dieu est toujours présent. Il est formé par tous ceux qui ont cru en Christ et qui lui obéissent. C'est lui, c'est ce peuple, c'est cette Église que Dieu conduira désormais à la victoire, quelles que puissent être les combinaisons que l'on élabore contre lui. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, s'exclame l'apôtre Jean. Avec le même enthousiasme, l'apôtre Paul dira de même, « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Christ? La persécution? La faim? Le péril? L'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Quelle merveilleuse assurance! Avec cette exultation de l'apôtre, nous sommes amenés à quitter l'échiquier mondial pour jeter un coup d'œil sur l'individu. Quelle partie jouez-vous sur l'échiquier de votre vie? Vous sentez-vous le jouet d'un destin aveugle? Alors c'est dommage, car vous jouez perdant. Vous partagez l'opinion de ce philosophe pour qui la vie est un échec puisqu'il faut mourir. Pourtant, elle pourrait être une victoire si vous consentiez à suivre les conseils du maître, de celui qui pour vous a donné échec à la mort. Souvenez-vous de ce cri, « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » La vie d'un homme est aussi comme une partie d'échec. On élabore ses plans, on fait des projets, on envisage des possibilités, autant de combinaisons pour essayer de réussir sa vie. Alors survient l'imprévu, une naissance, un décès, un accident, que sais-je encore, et tout s'écroule comme un château de cartes. Dans leur refus de compter avec celui qui est le maître des temps et des circonstances, les hommes jouent une partie désordonnée, irraisonnée, insensée, illogique. Il faut méditer ces paroles de l'épître de Jacques dans la Bible. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, nous dit Jésus. Et le voilà tourmenté, car il n'a pas assez de place pour serrer sa récolte. Il ne pense plus qu'à cela. La nuit, les yeux ouverts, il calcule. Il décide enfin qu'il abattra ses anciens greniers et en rebâtira de plus grands. Et il se dit, « Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais cette nuit même, il mourut. « Insensé, dit Jésus, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il ? » C'est un échec et mat caractéristique. « Pensée orgueilleuse, dit Jacques dans sa lettre. « Insensé, dit Jésus à l'homme qui se croyait à l'abri et qui ne faisait aucun cas de Dieu. Combien de fois n'avons-nous pas mérité ce jugement des Écritures ? Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu, par le prophète Ésaïe, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Pourquoi nous obstiner à jouer contre Dieu, avec nos pensées, notre raisonnement, nos combines, nos problèmes et nos soucis? Pourquoi ne pas soumettre tout cela au maître de l'univers et au maître de notre vie, pour qu'il nous mène à la victoire, jusqu'à travers la mort? Car c'est là, en définitive, la vraie victoire qui nous est proposée. Pouvoir dire avec l'apôtre Paul, « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain ».